C'est arrivé demain.
9h, 10h.
David Abiker.
Bonjour et bienvenue dans C'est arrivé demain. Barack Obama peut-il sauver son second mandat ? À 2 jours des élections au Sénat et à la Chambre des représentants, question posée à Anne Desine, spécialiste des institutions américaines. Les jeux vidéo ne rendent pas idiots, ils pourraient même contribuer demain à ce qu'Idriss Aberkan appelle l'économie de la connaissance. Ce jeune chercheur fait la une du Point cette semaine et il est notre invité. Un garçon aux cheveux longs, une fille en pantalon, le prochain François Ozon ose le film de genre et poursuit sur grand écran le débat sur le mariage pour tous. Enfin, Didier Lockwood viendra nous parler de son prochain spectacle au Bouffe Parisien, violon, jazz et quoi déjà, improvisation.
C'est arrivé demain sur Europe 1.
David Abiker.
Ce sera mardi. Barack Obama jouera la fin de son mandat. Il pourrait perdre aussi la majorité au Sénat puisqu'il est déjà minoritaire à la Chambre des représentants. Malgré des résultats économiques honorables, il est devenu impopulaire, très impopulaire, et sa politique étrangère est contestée. Bonjour Anne Desine.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'université de Nanterre et spécialiste des États-Unis. Anne Desine, ces élections américaines de mi-mandat qu'on appelle les midterms vont-elles se transformer en vote sanction pour la politique d'Obama ?
Alors sans doute au niveau fédéral, puisque au niveau fédéral nous avons les 435 sièges de la Chambre qui sont en jeu et un tiers des postes de sénateurs. Mais nous sommes dans un État fédéral, donc il y a sur le bulletin de vote aussi de nombreux autres postes, 33 postes de gouverneur, les chambres dans les États, puisque dans chaque État il y a un congrès bicaméral, sauf le Nebraska, et puis des juges, des shérifs, des procureurs, et puis des propositions d'initiative directe. Donc en fait, l'électeur va au niveau fédéral peut-être se prononcer contre Obama, mais il n'aime pas beaucoup les républicains. Et puis au niveau de son État, il va plutôt essayer de reconduire l'élu, si celui-ci a fait convenablement son travail, ou bien aussi avoir un vote sanction qui ne sera pas nécessairement le même, c'est-à-dire se prononcer contre un républicain au niveau de l'État.
Donc c'est un bulletin de vote à rallonge, les Américains vont mettre 10 minutes à voter, c'est pas comme chez nous.
Oui, c'est ça. Avant le vote électronique, c'était un énorme papier, très très long, avec plusieurs pages, il fallait cocher, le rendre, etc. Maintenant, ce sont des machines, on le sait depuis le fiasco de 2000, et c'est pas si facile que ça de se servir de ces machines, c'est compliqué, ça prend du temps.
Et la partie alors, c'est une participation comme chez nous, elle est beaucoup plus faible.
Alors, elle est déjà plus faible, mais il faut dire qu'elle est comptabilisée différemment. Mais elle est plus faible pour les présidentielles et elle est beaucoup plus faible pour ces midterms.
Anne Desine, comment vous expliquez l'impopularité du président américain ? Environ 40% d'opinion favorable. C'est si mauvais que ça parce que certains chez nous se contenteraient de la moitié.
Ça, c'est clair. Mais aux États-Unis, ce n'est pas très très bon. Mais ce n'est pas non plus anormal parce qu'on est en fin de deuxième mandat. Et les statistiques montrent que quand il y a cohabitation, divided government, la dernière élection midterm, c'est-à-dire à 6 années, est toujours très défavorable pour le président.
Cohabitation, on appelle ça divided government.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire le président d'un parti et la chambre d'un autre parti. À titre d'exemple, Bush, George W. Bush, a été au pouvoir de 2000 à 2008. Les élections de 2006 ont été un vote sanction terrible puisque les républicains étaient au congrès depuis 94 et en fait, ce sont les démocrates qui ont commencé à reprendre le terrain avant de remporter les présidentielles en 2008.
Anne Desine, faites-nous un peu l'état des forces politiques en présence. Combien de divisions, comme disait Staline ?
Mais d'abord, pour continuer, la raison pour laquelle Obama a de si mauvais chiffres, c'est que, curieusement, pour quelqu'un qui s'exprime si bien, il ne sait pas communiquer sur ses succès. C'est-à-dire, la loi sur la santé, bien sûr, c'est un énorme pavé de 1000 pages. Bien sûr, il y a eu des ratés avec le lancement du site. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Et bien sûr, il y a de nombreuses actions en justice. Mais quand même, il a réussi, il est parvenu à faire adopter une loi que tous les présidents démocrates ont cherché à faire voter depuis Roosevelt, depuis les années 1930. Donc c'est un succès fabuleux. Sauf qu'il ne réussit pas parce que les républicains font un tir de barrage. Et puis là, lors des élections, parce que les élus démocrates qui veulent reconquérir leur siège, se faire réélire, sont tellement inquiets de la mauvaise image qu'ils se distancient d'Obama. Donc, bien sûr, ils ne font aucune publicité sur le succès économique. Là aussi, en Europe, on serait bien content d'avoir les chiffres américains sur le succès de la loi sur la santé. Et même la politique étrangère n'est pas si mauvaise, puisqu'il a tenu ses engagements, il s'est retiré d'Irak et d'Afghanistan. Et en fait, là où il y a un vrai danger, il envoie ses petits camarades, en l'occurrence la France.
Vous disiez que Barack Obama a un problème de communication sur ses succès économiques, sur le chômage il a été bon, sur le social il a réussi une réforme phare. Comment se fait-il que cet homme qui a conquis le pouvoir en séduisant le monde entier ne parvient pas à communiquer sur ses réformes ? Il est mal entouré ?
Je pense que dans le monde américain actuel, qui est très polarisé, si le président fait passer un point de communication, immédiatement, il y a un tir de barrage républicain 10 fois plus fort sur le sujet. Et l'autre élément, et là, le pauvre président Obama n'y peut rien, c'est la polarisation des médias. C'est-à-dire, si moi, je suis vaguement républicaine, je vais regarder Fox News, qui va taper sur Obama 24 heures sur 24, et si par hasard, je suis pas trop âgée pour regarder un site internet, je vais aller sur les sites anti-Obama. Donc, j'ai aucune chance de trouver une information qui dise la vérité.
On va être confronté, si on est électeur américain, donc à la logorée d'une certaine télévision, et puis aussi au fracas de la campagne. Quels sont les grands thèmes de campagne américains? Sur quoi on s'écharpe?
Oui, alors on s'écharpe en fait sur des thèmes qui peuvent polariser l'opinion encore plus. Si on regarde la liste des initiatives directes, il y en a un peu plus de 140. Les démocrates ont fait en sorte d'inscrire dans les États, par exemple, l'augmentation du SMIC, enfin du salaire minimum. De façon à polariser les démocrates qui viennent voter. Et dans les États où les républicains veulent faire voter les républicains, ils vont inscrire par exemple une proposition interdisant le mariage homosexuel. Ce qui va amener les républicains à voter. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas les vraies questions. Alors, il y a quand même une toute petite lueur d'espoir, c'est que quand on sonde les Américains, ils sont maintenant plus de 50% à dire que peut-être au moment de voter, ils vont voter celui qui a des positions pas trop extrémistes et qui veut être pragmatique. Ça, c'est la première idée. Et il y a même un mini-parti qui s'est créé, qui s'appelle No Label, pas d'étiquette politique, ni républicain, ni démocrate. Et ils ont 4 points à l'ordre du jour. Ils veulent diminuer le déficit, ils veulent régler le problème de l'immigration. Enfin, les vraies questions des Américains qui ne sont jamais mentionnées dans la campagne.
Parlez-nous des vidéos, des arguments en dessous de la ceinture qui agitent les campagnes américaines habituellement. Est-ce que ça continue? On les connaît sur les campagnes présidentielles. Là aussi, vous avez de riches Américains qui payent pour avoir des slogans publicitaires abominables.
Oui, la situation s'est beaucoup détériorée. Il y avait toujours ces publicités. On sait qu'elles sont à 95, si ce n'est 98%, pardon, négatives. C'est-à-dire donnant des choses mauvaises sur l'autre. Et ces choses négatives, elles sont généralement erronées. Or, il n'y a aucune sanction. Il n'y a aucune sanction juridique. Il y a des sites qui sont spécialisés dans ce qu'ils appellent le fact-checking et qui délivrent des Pinocchio. Oui, le nez long quand on ment. Donc si une pub obtient 4 Pinocchio, c'est que vraiment la personne qui a fait cette publicité a vraiment menti. Mais il se passe rien. Ouais. C'est-à-dire, c'est toujours la même histoire. La pub a eu son impact, et quel que soit le rectificatif, l'impact est là.
Est-ce qu'Obama fait campagne? Est-ce qu'il se déplace avec Michelle Obama, son épouse très populaire? Est-ce qu'il mouille la chemise, ou au contraire, c'est la patate chose, personne n'en veut?
Alors, personne n'en veut, ça c'est clair, mais il mouille sa chemise en allant faire du fundraising. Donc, y compris dans les États où il n'y a pas d'enjeu. Il était en Californie, des petits dîners à 10, 20 000 dollars la place. Et il collecte beaucoup d'argent pour ses petits camarades démocrates. Par contre, il se garde bien d'aller dans les États où il y a un poste de sénateur en jeu, parce qu'il sait que c'est un danger. C'est-à-dire qu'il mettrait le candidat sénateur démocrate en danger s'il se déplace.
Ça veut dire que les sénateurs démocrates candidats ne l'invitent pas. Ils disent non, tu restes chez toi.
Et combien? Alors par contre, Michelle Obama, qui est moins marquée, elle peut aller défendre. Et puis surtout, on envoie Bill. Bill, il collecte l'argent et puis il va défendre ceux qui sont en danger et il arrive aussi.
Bill Clinton, c'est la cash machine. Où se situe Hillary Clinton dans cette campagne? Est-ce qu'elle prend ses marques? Est-ce qu'elle est dans les starting blocks pour la présidentielle ou est-ce qu'elle est très prudente?
Alors, elle fait campagne pour les démocrates, donc elle fait du fundraising, elle aussi, elle collecte de l'argent. Les Clinton sont très très bons pour la collecte de fonds, pas seulement Bill, elle aussi. Et puis, elle va dans certains États. Là, elle est allée par exemple en Louisiane, où la sénatrice démocrate Marie-Anne Landrieu est très très en danger. Et donc, elle va faire campagne.
Est-ce que les thèmes de politique étrangère s'invitent dans la campagne? C'est le point faible de Barack Obama aujourd'hui, la politique étrangère.
Oui, enfin oui et non. Alors, je pense que la politique étrangère, dans les débats, n'existe pas. Il y a quelques débats dans ces combats au niveau des États et pour les postes de sénateurs. Par contre, il faut tenir compte d'une crainte sous-jacente, mais réelle, des Américains. Le terrorisme leur fait peur. Ils n'aiment pas du tout ce qui passe. Bon, c'est loin l'Afrique, mais quand même, ils n'aiment pas. Ils ont vu en 2001... eux qui se pensaient inattaquables, qu'ils pouvaient être attaqués. Donc il y a une peur et ils se demandent si Obama fait tout ce qu'il faux. Et en cela, bien sûr, ils sont poussés par les républicains qui reprochent à Obama de ne pas être un président faucon.
Si Obama se retrouve minoritaire au Sénat, comme il l'est à la Chambre des représentants, comment vont fonctionner les institutions américaines? Il ne va plus rien faire, il ne pourra plus prendre aucune initiative sur la scène internationale, par exemple?
Ah si, il garde de toute façon le rôle prééminent pour tout ce qui est politique étrangère et défense. Ça, c'est clair. Mais en politique intérieure, ça ne va pas beaucoup changer, puisque là, les démocrates ont certes la majorité, mais ils n'ont pas la majorité de 60 qui permet de passer outre au blocage républicain.
On l'a compris, tout le monde prépare l'après-Obama. On a une idée de qui pourraient être les hommes forts de l'élection présidentielle américaine, ou c'est trop tôt?
C'est trop tôt. Il y a des candidats, mais il faut simplement se rappeler qu'en 92, personne ne connaissait Bill Clinton 18 mois avant, et en 2008, personne ne connaissait Obama. Les institutions américaines qui sont en blocage et les électeurs se plaignent, elles ont au moins un avantage, c'est qu'elles sont fluides. Et donc, il peut très bien émerger quelqu'un chez les républicains comme chez les démocrates.
Dernière question, un point de détail, mais pas si détaillé que ça. Pourquoi les Américains votent le mardi et pas le week-end?
Ah, ça, c'est historique. La première idée, c'est qu'il fallait du temps entre la messe, enfin le service du dimanche, et le temps de prendre la carriole pour aller voter.
Et donc, c'était un mardi, et ça reste un mardi. Anne Désine, merci d'avoir été notre invitée. Si on veut en savoir plus sur le mode de fonctionnement des institutions américaines, il y a votre dernier livre, Les institutions américaines, paru à la Documentation française. Vous restez avec nous dans un instant. On parle de jeux vidéo et d'économie de la connaissance. Idriss Aberkane, un jeune chercheur de 28 ans qui fait la une du Point cette semaine en parlant de jeux vidéo et de cerveau.
Europe 1, c'est arrivé demain. David Abiker.
Le salon du jeu vidéo à Paris, c'était toute la semaine et ça se termine aujourd'hui. La Paris Games Week, l'occasion d'évoquer l'économie du jeu vidéo aujourd'hui, mais surtout demain. Économie de la connaissance aussi avec Idriss Aberkane. Bonjour Idriss Aberkane.
Bonjour David.
Vous avez 28 ans, vous êtes chercheur en neurotechnologie, vous enseignez à Centrale, à l'école Centrale, vous êtes associé à différents labos de recherche à Stanford et à Polytechnique. Vous faites la une du Point cette semaine, le point dans lequel vous expliquez notamment que le jeu vidéo permet de muscler son cerveau.
Absolument, vous devez considérer, David, le jeu vidéo comme possiblement la fibre optique des transferts de connaissances. On pourrait transférer les savoirs beaucoup plus vite de l'internet au cerveau, par exemple avec des jeux vidéo, s'ils sont bien faits.
Il se passe quoi dans un cerveau, dans le cerveau de celui qui joue? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été observé ou pas?
Ça a été observé et c'est très intéressant parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, le cerveau d'un joueur va consommer plus de glucose que le cerveau de quelqu'un qui est en train de résoudre des équations différentielles.
Et c'est bien de consommer du glucose?
Oui, consommer du glucose, ça veut dire que votre cerveau travaille.
Et c'est quelle partie du cerveau qui travaille quand on joue?
Alors ça, c'est très difficile à dire parce que si vous voyez un jeu d'action, eh bien vos neurones miroirs vont être impliqués, c'est le cortex préfrontal. Si jamais vous jouez un jeu de réflexe, il y aura d'autres aires, donc ça peut être à peu près n'importe quelle aire du cortex cérébral qui peut être impliquée dans un jeu.
Le jeu vidéo, ça reste un univers à part, les joueurs de jeux vidéo sont considérés encore comme une bande un peu à part, une communauté à part, ça se démocratise. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui du jeu vidéo un art comparable au cinéma, à la littérature et à toutes les autres industries culturelles?
Alors ça, c'est vraiment une très bonne question, David, parce que Roger Ebert, le grand critique de cinéma, avait dit un jour les jeux vidéo ne seront jamais de l'art, jamais.
Et il
s'est trompé complètement, puisque un très grand musée à Washington a consacré une exposition aux jeux vidéo comme forme d'art. Et aujourd'hui, on a Willem Dafoe qui peut jouer dans un grand acteur, Willem Dafoe qui peut jouer dans un jeu vidéo. Et en fait, il faut juste laisser le temps à ce média de s'exprimer tranquillement. Et après peut-être 10 ans, il y aura des musées, une forme d'art complète, bien sûr.
Idriss Aberkane, dans quelques jours, sortira la 7e version d'un jeu mondialement connu qui s'appelle Assassin's Creed, et ce jeu va être lancé comme un film de cinéma. Comment expliquez-vous ça?
Eh bien, en fait, le jeu vidéo est en train de devenir le nouveau cinéma. Vous vous souvenez un peu quand à l'ouverture des Guignols de l'Info, on dit « vous regardez l'ancêtre d'Internet ». Peut-être un jour le cinéma dira « vous regardez l'ancêtre des jeux vidéo ». Les budgets du jeu vidéo aujourd'hui, pour Destiny par exemple, c'est 500 millions de dollars. C'est pratiquement Titanic et Avatar réunis. Pour Assassin's Creed, c'est plus modeste, mais ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est qu'il représente la vraie contribution française à l'industrie. On n'est pas du tout à la traîne dans l'industrie, alors que pour Hollywood, par exemple, on pourrait dire que le cinéma européen est à la traîne par rapport à Hollywood, mais le jeu vidéo français, Assassin's Creed, se déroule pendant la Révolution française. Vous allez avoir des Chinois, des Japonais, des Coréens qui vont jouer et rêver sur ce jeu qui évoquera Paris.
Qu'est-ce qui se passe dans ces jeux qui interrogent et stimulent le chercheur en technosciences que vous êtes?
Eh bien, pour moi, la première chose, c'est qu'ils peuvent capter l'attention. Et capter l'attention aujourd'hui, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, l'information est surabondante, mais l'attention est très limitée. Et nos auditeurs le savent bien, capter l'attention, c'est tout un art. Or, aujourd'hui, quand vous voulez apprendre quelque chose, vous devez lui donner votre attention. On sait en économie de la connaissance que l'argent, le capital, c'est l'attention multipliée par le temps. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous devez dépenser votre attention et votre temps. Et c'est ce que les auditeurs font en ce moment en écoutant. Ils dépensent leur attention et leur temps. Eh bien, les jeux vidéo savent capter l'attention mieux que personne. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que l'humanité a déjà joué 7 millions d'années à World of Warcraft. 7
Qu'est-ce
millions d'années cumulées.
Qu'est-ce que c'est World of Warcraft?
Alors, c'est vrai que c'est un jeu que plutôt les jeunes vont connaître ou que les parents vont détester.
Ou subir.
Subir, absolument. C'est vrai, parce que c'est un jeu très addictif. C'est un jeu de rôle qui est addictif parce qu'on peut s'échapper de la réalité. On joue un nain, un elfe, c'est un peu du Tolkien. Et c'est un jeu multijoueur, donc il y a les deux paramètres de l'addiction.
Et ce qui vous intéresse dans cette histoire-là, c'est le temps que l'humanité a déjà passé à jouer à ce jeu, parce que ce temps-là nous raconte quelque chose.
Bien sûr, vous imaginez, l'humanité va cumuler de 2004 à 2014 7 millions d'années sur ce jeu. C'est incroyable, je veux dire, l'Australopithèque c'est 3 millions d'années.
Temps perdu ou temps gagné?
Pour l'instant, pour le joueur, ça a tendance à être du temps perdu. Et d'ailleurs, le joueur se sent coupable à la fin de la journée s'il a passé sa journée à jouer. Mais peut-être qu'un jour, le joueur ne se sentira plus coupable parce qu'il jouera à un jeu sur lequel il aura résolu des problèmes importants. Il y a aujourd'hui un jeu qui s'appelle Fold It, où on s'amuse à reployer des protéines. Ça n'a pas l'air d'être un jeu, mais sur le papier, le Sudoku n'est pas un jeu non plus. Si vous expliquez à quelqu'un, remplissez des colonnes de chiffres, il va vous dire, je suis pas comptable, c'est pas un jeu. Mais une fois que vous avez le jeu sous la main, vous voyez que c'est un jeu. Et ce jeu Fold It, eh bien, il a permis de résoudre des problèmes pharmaceutiques en jouant.
Un de vos sujets préférés, Idriss Aberkane, c'est d'expliquer que l'humanité va passer donc de plus en plus de temps à jouer, mais jouer pour jouer, jouer aussi pour se former, mais également jouer pour travailler.
Et oui, alors jouer pour se former déjà, puisque pour la formation continue, le jeu est génial. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous lisez un livre, si vous imaginez que vous êtes une voiture, quand vous lisez un livre pour apprendre, vous consommez du carburant à l'allumage et sur tout le trajet. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous ne consommez du carburant qu'au freinage. Vous ne consommez votre motivation, votre énergie, que pour vous arrêter de jouer. Alors imaginez qui va être plus compétitif dans l'économie de la connaissance, le livre ou le jeu vidéo? Évidemment, il faudra que le jeu vidéo soit bien fait.
C'est ça qu'on appelle la gamification.
Et voilà, la gamification ou ludification en français, transformer le travail en jeu. Et c'est tout à fait possible, en fait, ça va être un métier. Ça va être un métier qui va créer des emplois, peut-être au début un peu artisanaux, avec des experts qui sauront transformer un travail très particulièrement douloureux en jeu. Et le grand mathématicien David Hilbert avait dit, vous savez, les mathématiques sont un jeu. Et lui, il voyait les mathématiques sont comme un jeu.
Idriss Aberkane, Le Monde a consacré cette semaine un dossier sur les risques de déconcentration, voire les dangers des écrans sur le cerveau humain. Cette querelle sur les dangers des écrans qui rendrait agressif, qui ramollirait la cervelle, c'est une querelle ancien-moderne où il y a des éléments objectifs qui permettent de dire que trop de jeux vidéo, c'est pas bon.
Passer trop de temps devant un écran, oui, on sait que c'est mauvais, bien sûr. Et il faut pouvoir se déconnecter, pouvoir un petit peu se lever, faire des mouvements, etc. Mais effectivement, la querelle reste ancienne dans le sens où dès qu'une nouvelle technologie arrive, elle peut être soit une aliénation, soit une libération.
Idriss Aberkane, vous faites la une du Point cette semaine. Vous avez 28 ans, vous enseignez, vous êtes une grosse tête, comme on dit, et vous êtes pionnier, ou en tout cas pédagogue, sur ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Qu'est-ce que c'est ?
L'économie de la connaissance, c'est une très belle opportunité. Parce que, pour faire simple, comme la connerie, la connaissance est infinie. Et donc, ça change tout économiquement déjà. Parce que le capital, ce n'est pas infini, le pétrole, ce n'est pas infini. Donc, vous ne pouvez pas avoir une croissance infinie avec les matières premières. Mathématiquement, c'est pas possible. Mais avec la connaissance, vous pouvez. Et ce qui démontre l'avènement de l'économie de la connaissance, c'est les succès d'Apple, c'est les succès de Microsoft. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde n'est pas un mania du pétrole. C'est un mania du logiciel. Et en 84, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, rencontrait François Mitterrand, qui lui demandait pourquoi on n'a pas de Silicon Valley en France. Et Steve Jobs lui répondait, vous savez, il y a une chose très importante, c'est que vous devez comprendre que le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90. C'est encore valable aujourd'hui.
9 méthodes pour muscler son cerveau. La 10e méthode, c'est vous, Idriss Aberkane. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. On vous retrouve en une du Point avec votre belle blouse blanche cette semaine. Merci d'avoir été notre invité.
Merci David Abicard.
Et vous restez avec nous Idriss. Vous parliez d'ancêtre du jeu vidéo, on va parler du cinéma, puisque c'est ça l'ancêtre du jeu vidéo, avec une nouvelle amie. Prochain film de François Ozon qui sort mercredi dans les salles. Un film qui inverse les genres avec un Romain Duris en talon aiguille.
Europe 1, c'est arrivé demain. David Abicard.
Une nouvelle amie, c'est le titre du dernier film de François Ozon qui commence par cette situation impossible. Pour élever sa fille, un père, Romain Duris, se travestit en femme pour remplacer la mère de l'enfant décédé. Alors au départ, ça fait mauvais genre et puis on s'habitue à voir Romain Duris en maman. Bonjour François Ozon.
Bonjour.
Votre film est tiré d'une nouvelle de Ruth Rendell. C'est un film qui fonde son scénario sur une transgression. Vous aimez ça? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le travestissement?
Ce qui m'a intéressé, c'est le déguisement en fait. Le fait de se déguiser, c'est pas tant le travestissement que le fait de chercher son identité et de filmer une émancipation, quelqu'un qui trouve sa liberté, qui trouve son chemin pour trouver sa véritable identité, qui n'est pas forcément celle qu'on lui a donnée à sa naissance.
Quelle distinction vous faites entre le travestissement et le déguisement, puisque vous faites
pour
la
moi
nuance.
C'est la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déguisés. Il y a pas besoin. Il y a des gens qui sont déguisés en hommes et qui sont nés hommes, qui jouent une survirilité, où il y a des femmes qui sont surféminines. Je pense qu'on est tous déguisés dans la société. Chacun joue un rôle. Donc finalement, changer de genre, c'est pas si différent pour moi.
Le travestissement au cinéma, c'est quand même un grand classique parce que c'est on dit c'est un sujet tabou, une transgression, mais en fait les cinéastes adorent ça. Vous avez la comédie avec certains Lem Show, l'épouvante avec Psychose. Est-ce que ces films vous ont inspiré?
En fait, je me suis rendu compte qu'il y a deux sortes de films sur le travestissement. Il y a des films qui sont en général assez réalistes et assez dramatiques parce qu'ils sont proches de la situation des gens qui sont souvent dans un état de souffrance. Et puis, il y a des comédies qui viennent souvent des États-Unis, comme effectivement, vous l'avez dit, certains Lem Show, Victor Victoria, Tootsie.
Ouais.
Et en fait, je me suis dit, ce qu'il y a d'intéressant dans ces films, c'est que les réalisateurs américains qui sont très malins sur la narration, ils nous font rentrer dans une histoire non pas par rapport au désir du personnage de se travestir, par rapport à une situation, c'est-à-dire qu'ils se travestissent parce qu'ils n'ont pas de boulot. Dans Tootsie, c'est un acteur qui est au chômage. Dans certains Lem Show, ils sont poursuivis par la mafia. Ils sont obligés de se déguiser. Mais après, on partage le plaisir du personnage à se travestir.
Vous voulez dire que c'est un bon prétexte pour se
Absolument.
Déguiser?
Absolument. Et moi, mon prétexte, ça a été cette histoire de deuil. Le fait que cet homme perde sa femme et se retrouve avec un bébé. Et il se dit cette phrase toute simple. Un bébé a besoin d'un papa et d'une maman. Je vais jouer les deux rôles.
Comment on évite le ridicule? Ça, c'est un problème technique pour le cinéaste qui met au cœur de l'intrigue, qui n'est pas une intrigue drôle, un travesti. Comment on évite la cage aux folles?
En fait, ce qu'il fallait, c'était rire avec le personnage et non pas contre le personnage. Donc l'idée, c'était d'être en empathie avec lui, de partager sa souffrance au départ et en même temps partager aussi son plaisir. Et c'est ça que j'ai aimé dans le travail avec Romain Duris. C'est que Romain Duris, qui est vraiment un acteur viril, qui est très masculin.
Très poilu. Hein,
très
en ce moment, il est barbu, il y a des poils partout.
Mais il y a eu un budget épilation très important sur le film.
Il a souffert, racontez-nous un peu l'épilation de Romain Duris.
Il a souffert sur l'épilation. Par contre, il a pris beaucoup de plaisir à s'habiller parce que Romain, c'est un acteur qui aime la composition, qui aime créer des personnages, travailler en amont. Et là, pour lui, jouer le rôle d'une femme, c'était l'apothéose de son travail d'acteur.
Il est très loin de l'auberge espagnole. Hein.
Absolument. Mais c'est ce qu'il aime. Comme acteur, il aime avoir des défis et faire des choses qu'il n'a jamais faites avant.
Il y a eu des fous rires sur le tournage ou finalement la dimension dramatique de ce père qui se travestit pour élever sa fille l'a emporté?
Non, il y a eu beaucoup d'émotions. Je trouve que Romain apporte beaucoup d'émotions au personnage. Il y a eu beaucoup de respect. Et puis, lui, il était très très concentré. Il a fait un travail en amont avec une danseuse pour apprendre à marcher avec des talons. Donc il y avait une concentration. Et puis moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir une actrice en face de moi. C'était Virginia, c'était plus Romain Duris.
Il y a deux ans à Cannes, vous avez dit, François Ozon, c'est un fantasme de beaucoup de femmes de se livrer à la prostitution. Évidemment,
ça m'a valu beaucoup.
Ah, tout le monde vous est tombé dessus, bien évidemment. Est-ce que c'est un fantasme de beaucoup d'hommes que de se livrer au travestissement? Est-ce que vous avez eu, à l'occasion du tournage, des révélations, des aveux autour de vous, des types qui sont venus vers vous en vous disant
Je crois
écoute...
qu'en tout cas, c'est le dernier tabou. C'est-à-dire qu'on accepte tout à fait qu'une femme soit masculine, qu'une femme se maquille pas, s'habille en jean. C'est quelque chose qui est admis dans la société aujourd'hui. Par contre, vous voyez un garçon qui se met du rouge à ongles ou qui se maquille ou qui porte des talons, c'est inadmissible. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc je me suis rendu compte que c'était effectivement un tabou et que du coup c'était quelque chose de très secret. Donc les hommes qui font ça, en tout cas, le gardent dans leur intimité. C'est pas quelque chose qu'on assume au grand jour.
C'est pas uniquement un film sur le travestissement parce que c'est un film qui est fidèle au travail de François Ozon sur la question du rôle, la question du genre. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un homme? Qu'est-ce qu'on fait quand on est une fille? À un moment donné, votre personnage, Romain Duris, il dit « Ah là là, maintenant que je suis une fille, je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai pas pu faire quand j'étais un homme », ce qui pose la question du genre.
Bah absolument, parce qu'on se rend compte que nous sommes éduqués vraiment dans une idée de ce que doit être le masculin et le féminin. Donc on attend d'un petit garçon qui joue à la voiture et qui s'habille, qu'il ait une chambre bleue et la petite fille en rose et qu'elle joue à la poupée. Et il arrive des fois qu'il y ait des enfants qui ont envie de passer de l'autre côté, des garçons qui ont envie de jouer à la poupée et des petites filles qui veulent faire de la boxe ou jouer au foot. Donc c'est ça que je voulais raconter et surtout je voulais dédramatiser. C'est pas si grave finalement. Après chacun retrouve sa place et ça ne bouscule pas tant la société que ça.
Comment vous réagissez au débat sur le genre dès qu'il s'agit d'éduquer à l'égalité et à casser un peu la répartition des rôles conservatrice, par exemple quand elle s'invite à l'école, il y a tout de suite des levées de boucliers. Vous avez pensé à ça en tournant ?
C'est-à-dire que quand j'ai écrit le scénario, il y a eu toutes ces manifs contre le mariage gay, contre l'égalité des droits, et je me suis vraiment posé la question comment raconter mon histoire pour que les gens qui manifestent, qui sont souvent dans la peur et l'ignorance, et dans une certaine violence, puissent comprendre cette histoire. Donc je me suis dit, il faut que le scénario soit un petit peu pédagogique, c'est-à-dire expliquer que le désir c'est complexe, qu'il y a des histoires particulières, il y a toutes sortes de familles, et que c'est pas si grave. Donc j'ai essayé de répondre dans la douceur en intégrant une part de comédie et aussi d'émotion, pour que ces gens-là comprennent voilà la différence, parce que ce sont souvent des gens qui ne connaissent pas en fait, qui sont enfermés dans des quartiers et qui ne voient pas l'évolution de la société aujourd'hui et l'état de la famille aujourd'hui,
mais
qui est multiple.
Vous avez placé la barre très haut sur les attirances, parce que on a dans ce film une femme attirée par un homme déguisé en femme mais qui n'est pas lesbienne, de la même façon qu'on a un travesti qui n'est pas franchement homosexuel.
Donc il n'est pas du tout, parce que la réalité des travestis c'est qu'ils sont souvent hétérosexuels, qu'ils sont mariés, qu'ils ont des familles, ils ont des enfants.
Il y a dans ce film un second rôle très discret, mais c'est un second rôle essentiel, c'est l'Église catholique. Les beaux-parents de Romain Duris, le travesti, sont de bons paroissiens. Il y a plusieurs scènes ambiguës dans une chambre et sur un lit, qui ne sont pas des scènes cochonnes, pas du tout, où quand même il y a un crucifix au mur. Les décors ne sont pas anodins, François Ozon.
Rien n'est jamais anodin dans un film. Oui, j'avais envie d'avoir ce background catholique parce que moi, j'ai évolué dans ce milieu quand j'étais enfant.
Vous avez fait votre catéchisme.
J'ai fait mon catéchisme et pour moi, c'est pas antinomique. Le catholicisme et une ouverture d'esprit et le fait d'accepter des familles différentes. Au contraire, ça va avec le monde d'aujourd'hui.
Votre notice donc, Wikipédia dit que vous êtes fils d'enseignant catholique. À chaque fois, vous dites c'est vrai, mais c'est pas énorme, quoi. Enfin, c'est pas la nouvelle de l'année.
Non, absolument. Et puis, mes parents ne sont pas pratiquants, en fait. Ils sont d'abord enseignants avant d'être catholiques.
Les couples atypiques, les femmes qui sortent du rôle que la société leur a assigné, la confusion des genres ou le plaisir à porter la confusion des genres, ça vous plaît?
Oui, je pense que c'est simplement, il y a un rééquilibrage entre les hommes et les femmes, c'est tout. Donc il n'y a pas de féminisation. Enfin, c'est juste que les femmes, on est en train de leur donner une place égalitaire à celle des hommes. Et c'est ça qui perturbe beaucoup d'hommes, parce qu'il y a beaucoup de siècles de patriarcat derrière nous. Donc c'est normal. Il y a un changement, mais il n'y a pas de quoi avoir peur, il n'y a pas de risque.
Almodovar, Hitchcock, Truffaut, Billy Wilder, avoir des maîtres, des modèles, ça a quel sens pour vous ?
Bah, ça aide à pas se tromper, à voir ce qu'ils ont fait eux, et du coup ça peut être une source d'inspiration. C'est vrai que le fait d'avoir vu certains Lem Show, de voir comment Billy Wilder va assez loin, parce qu'il termine quand même son film avec Jack Lemmon qui est en femme, qui va épouser un milliardaire, et l'autre lui dit Nobody's Perfect.
C'était quand même en bateau comme ça sur
absolument,
la mer.
Absolument, ouais. C'est quand même assez transgressif, et ça c'était dans les années 50. Donc voilà, le fait de voir des grands cinéastes qui ont déjà traité des sujets compliqués, difficiles, et qui ont réussi à toucher un public, ça c'est une vraie leçon.
François Ozon, la prochaine transgression cinématographique, ce sera quoi? Elle tournera autour de quoi? Il y aura des femmes, évidemment.
Je ne sais pas encore.
C'est vrai, vous n'écrivez pas pour l'instant?
J'ai pas le temps, là, je fais la promo, je voyage avec le film beaucoup parce que le film sort à l'étranger. Je reviens notamment de Russie où c'était assez intéressant de voir comment ils réagissaient au film. Et donc là, j'ai plusieurs idées, mais il n'y a pas une idée qui s'est cristallisée, donc je ne sais pas exactement ce que sera le prochain film. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de transgression.
Vous parlez des réactions au film dans les salles, on vous prend à partie.
Il y a beaucoup de débats.
Il y a déjà des journalistes qui n'ont pas aimé, des critiques de presse un peu réactionnaires ou conservatrices?
C'est pas encore tombé, mais forcément, c'est un film qui invite au débat. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant. Le film ne laisse pas indifférent. Et c'est ce que, à mon avis, les gens ont envie de voir. Les gens n'ont pas envie de voir de l'eau tiède. Ils ont envie de voir des films qui ont des vrais partis pris et en même temps qui racontent des histoires.
Eh bien, on s'accroche à votre histoire, François Ozon. On va courir mercredi en talons hauts ou en talons plats, voir cette nouvelle amie avec un Romain Duris chouette et épilé et une Anaïs de Moustier épatante. Un film européen qu'on a adoré. On se retrouve dans un instant pour parler d'improvisation avec Didier Lockwood et son violon.
Europe 1, c'est arrivé demain.
9h, 10h.
David Abiker.
40 ans de carrière et une question. Qu'est-ce que la création? Comment improvise-t-on? D'où viennent les notes, les idées, les mots? Question que nous pose le jazzman violoniste qui se produira bientôt au Théâtre des Bouffes Parisiens. Bonjour Didier Lockwood.
Bonjour.
Vous serez sur scène avec votre violon à partir du 22 novembre, Didier Lockwood. Et vous avez voulu que ce spectacle porte sur l'improvisation. Pourquoi l'impro?
Ben, l'improvisation, parce qu'aujourd'hui, l'improvisation est un facteur de fonctionnement humain très important, je crois. On le voit de toutes parts, tout le monde improvise, puisque le temps s'est comprimé et on n'a plus le temps de préparer les choses. Et si on les prépare, de toute façon, on est très déçu parce que ça se passe jamais comme on l'avait prévu.
Dans le monde des affaires et du management, ils appellent ça, de l'innovation, ils appellent ça la disruption. C'est-à-dire qu'en fait, laisser du hasard dans des processus très précis permet d'avoir de nouvelles idées. C'est à ça que vous pensez ?
Eh oui, vous avez dit le mot, c'est le hasard. Laissez parler le hasard, oui. Laissez parler le hasard et apprendre à le conduire.
Ça se prépare, un spectacle sur l'improvisation. Vous arriverez les mains dans les poches.
Ça ne s'improvise pas.
Alors, c'est quoi votre feuille de route ?
Bah, la feuille de route, en fait, c'est de constituer une banque de données, donc de connaissances, de savoir, d'émotions, de sentiments, pouvoir apprendre à connecter en fait ces informations en temps réel, puisque l'improvisation, c'est gérer le temps.
Didier Lockwood, vous parlez comme un informaticien ou comme un créateur de start-up informatique. C'est par goût de la science, de la techno? C'est rare chez un violoniste d'avoir des mots comme ça du vocabulaire informatique.
Mais vous savez, je crois que les musiciens ont toujours été très proches, en tout cas la culture musicale a toujours été très proche de la culture scientifique. Einstein était un violoniste, d'ailleurs, qui jouait relativement juste.
Alors, il se passe quoi dans la tête d'un musicien qui va faire un spectacle d'improvisation? Vous dites, je prépare une grande base de données, je vais aller y télécharger des impressions, des idées, peut-être des notes aussi. Mais à un moment donné, vous êtes en risque.
Bah, c'est ça, apprendre à se perdre. Vous savez, aujourd'hui, on est dans la normalité. D'ailleurs, on nous l'a assez...
Vous pensez au président normal ?
Bah, je pense que... je crois que c'était une parole extrêmement symbolique. On est dans la normalité, on ne sort pas des cadres. Et c'est peut-être pour ça que ça ne va pas très, très, très bien. Je pense qu'il faut apprendre à se perdre. Il faut prendre des risques. Et la vie est elle-même un risque.
Alors, vous allez faire monter des gens sur scène ? Vous allez jouer avec le public ?
Oui, bien sûr. C'est un spectacle interactif. Et c'est là où c'est intéressant. C'est de pouvoir faire sentir aux gens que chacun est doté de la faculté de pouvoir improviser, même musicalement. Et que c'est en fait une habitude qu'on n'a pas prise parce qu'on n'a jamais appris à le faire à l'école, quand on était petit déjà.
Mais parce qu'à l'école, on apprend à faire et ensuite on apprend à improviser.
Oui, effectivement. Mais en fait, il faut oser. Vous voyez.
Didier Lockwood, on va oser vous écouter, on va ouvrir la boîte à données. C'est un extrait de ce spectacle d'improvisation que vous avez testé un petit peu avant de vous produire le 22 novembre prochain. On écoute et vous nous raconterez comment marche la machine Lockwood. Dans le cerveau du créateur, il se passe quoi là dans les neurones et les synapses du violoniste?
Alors là, c'est ce que je vais vous dire est extrêmement décevant. Pour pouvoir improviser, pour pouvoir laisser parler le hasard, il faut complètement lâcher prise et penser à tout à fait autre chose qu'à ce qu'on est en train de faire. En fait, quand je suis en train d'improviser, je suis ailleurs complètement.
Vous pensez aux impôts,
ça peut m'arriver,
à changer de voiture,
ou de dire tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir après le concert,
c'est pas vrai.
Par exemple.
Devant le public, avec des gens qui viennent sur scène auxquels vous apprenez.
Je me force à le faire.
C'est pas vrai.
Puisque je ne suis pas moi-même détenteur de ce qui se passe. C'est quelque chose qui ne doit pas être. C'est un geste qui n'est pas dans la volonté. C'est pas un geste volontaire. Il faut absolument pas vouloir maîtriser la chose, puisque à vouloir la maîtriser, on va la réduire à notre incapacité humaine. Rien n'est mieux pour créer que le hasard. On dit toujours, eh bien, tel musicien, tel peintre est un créateur. Mais en fait, je crois que cette création-là, ce sont simplement des souvenirs qui réapparaissent comme ça dans notre cerveau, à notre mémoire, et qu'on restitue très maladroitement.
Des réminiscences, comme on dit. Quels exercices vous allez faire sur scène avec le public? Un exemple? Si vous prenez, il y a une dame au premier rang, vous la faites monter sur scène, bah, et vous allez
déjà
faire quoi avec elle?
Déjà, je pose certaines valeurs, par exemple, le rythme. qu'on retrouve dans tout le geste artistique en général. Je leur fais faire la montre.
C'est quoi faire la montre ? Tic-tac ?
Eh bien, vous voyez, si vous faites la montre comme ça, vous ne serez jamais à l'heure.
Ah ben, je ne serai jamais à l'heure et jamais un artiste, ça c'est
voilà.
sûr. Mais...
Puisque en fait, la montre, on doit décomposer, c'est tic-tac, tic. Pourquoi ? Parce que les silences, si on laisse des silences, c'est là où on est dans le doute. Et quand on commence à douter, on perd pied avec la réalité.
Et moi, on m'avait dit que les silences faisaient partie de la musique aussi, non ?
Oui, ils font partie de la musique, mais les silences sont habités. Un silence qui n'est pas habité, c'est du néant.
Didier Lockwood, on parle de musique un peu participative. Ça me fait une transition formidable pour parler de vos fonctions d'élu local. Vous êtes adjoint au maire à la culture de Damary-les-Lys. Vous y enseignez aussi la musique. Vous y avez créé une école de musique. Est-ce que vous êtes déçu par la politique ou pas ? Quand je vous entendais parler tout à l'heure, là, je sentais une forme de déception parce que vous trouviez que les politiques ne prenaient pas assez de risques.
Le monde d'aujourd'hui ne nous permet plus de répondre à ce que signifie vraiment la politique. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une obligation de résultat avant même que les questions se posent. On doit trouver les réponses. Et on ne peut pas faire la politique comme ça. La politique, c'est du long terme. Et puis la politique, c'est aussi une remise à plat des valeurs qu'on a, desquelles on s'est vraiment éloigné, je pense. Il y a des valeurs humanistes, notamment, desquelles on s'est éloigné et on a perdu le sens.
Vous avez dit il y a quelques années, Didier Lockwood, dans le ciel de la culture, le trou d'ozone est assez grand comme ça, vous trouvez que le niveau baisse, quoi.
Oui. Alors, ce qui est extraordinaire.
C'est un peu réac pour un musicien, alors que finalement, vous pensez tout le contraire. Vous pensez que les gens ont des ressources formidables, que les artistes sont là, qu'il y a un potentiel créatif.
Oui, mais je crois qu'il y a un rouleau compresseur qu'on pourrait appeler les médias, qui, en général, malheureusement, sont plutôt dans un asservissement de la population, plutôt que d'essayer de tenter d'élever le niveau des consciences. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui est étalon. Tant qu'on ne verra pas un musicien noir dans un orchestre symphonique, pour moi, ça veut dire qu'il y a un ostracisme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Il y a un problème de pratique musicale.
Mais bien sûr.
40 ans de carrière, Didier Lockwood. Si c'était à refaire, vous choisiriez le violon ? Vous vous êtes déjà posé cette question-là ? C'est le violon et il vous est tombé dessus et il n'y a pas de débat ?
Ben, franchement, écoutez, je ne me pose pas la question parce qu'en plus du violon, j'ai appris à jouer du saxophone, j'ai fait 10 ans de trompette, j'ai un prix de piano, et je fais de la peinture, c'est mon hobby, et puis j'écris aussi. Voilà, donc,
il y a un roman qui va sortir justement où la création, le processus créatif est au cœur de la réflexion.
Ben oui, vous voyez. Il va sortir fin décembre, puisque c'est un livre de Noël, en fait. C'est une réflexion. C'est une fiction, naturellement, mais c'est une réflexion un petit peu. Essayer de réduire ce hiatus entre le sensé, le matérialisme, et le sensible, l'idéalisme.
Didier Lockwood, il y a quelque chose qui est frappant chez les jazzman, mais chez vous en particulier, c'est que vous aimez vous entourer, vous n'êtes pas un solitaire. On va écouter un extrait d'un concert l'année dernière, retransmis sur Arte. C'était aussi pour célébrer vos 40 ans de carrière, parce que vous l'avez fait toute l'année 2014. Vous êtes accompagné de Thomas Dutronc notamment.
Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi, quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points comme...
Didier Lockwood, on a commencé par l'improvisation, on finit avec l'improvisation. 40 ans de carrière, ça s'improvise ou pas ? Ou finalement, c'est quelque chose d'assez construit chez vous ? Vous avez fait des choix aléatoires ?
Alors là, j'ai fait vraiment confiance à ce que je sentais, à cette intuition. Vous savez, je crois qu'on a tout est écrit en nous. Il faut simplement apprendre à lire. Mais à lire les choses qui sont à l'intérieur
Tout est écrit en nous, il faut simplement apprendre à lire, et en particulier la musique. Merci Didier Lockwood, c'est une belle conclusion. Vous serez au Théâtre des Bouffes Parisiens dès le 22 novembre prochain. Un roman à suivre vers la mi-décembre sur le processus créatif. Merci d'avoir improvisé dans cette arrivée demain, mais pas trop quand même.
Merci.
Et j'aimerais vous le chanter, mais je peux point. Et c'est arrivé demain, c'est fini. Rendez-vous samedi prochain dès 9h pour cette arrivée cette semaine. D'ici là, on se retrouve sur europe1.fr si vous avez pris l'émission en route. Et pour réagir, Facebook et Twitter, et où je lis vos commentaires. Dans un instant, le grand rendez-vous. Moi, je m'en vais, mais vous, Sophie, vous restez. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci David. C'était David Abiker sur Europe 1. Il est 10h.